Donc pour notre troisième semaine, on en est à la troisième partie de Ruth. Donc comme on a fait la première semaine, le premier chapitre de Ruth, la deuxième semaine, le deuxième chapitre de Ruth, et cette troisième semaine, on va faire Ruth 3 et 4. Je vous propose de prier avant de commencer. Je te remercie Seigneur de nous rassembler dans cette église ce matin. Merci pour ta fidélité Seigneur que tu nous laisses pas tomber Seigneur et tu nous encourages à te suivre. Je prie, Seigneur Tout-Puissant, que ta parole nous parle ce matin, qu'elle parle à nos cœurs, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous encourage, qu'elle nous montre ta volonté dans nos vies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que ta parole est vivante, Seigneur, que ta parole est vie pour nous. Seigneur, ta parole est la vérité, et je prie que tu nous éclaires par ta vérité. Sois glorifié parmi nous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc on entame le troisième chapitre de Ruth. Le livre de Ruth se trouve page 274 dans les Bibles à la colombe. Est-ce qu'il y en a encore qui ont besoin d'une Bible? Je vais résumer un petit peu les chapitres 1 et 2 qu'on a vus au cours des deux dernières semaines. Donc le livre de Ruth, j'avais dit, c'est vraiment un livre clé dans la Bible qui se situe entre le livre des Juges et le livre de 1 Samuel et qui fait un peu le lien entre cette période de pas droit, le livre des juges, et la période des rois qui va venir. Et l'histoire de Ruth est clé aussi, parce que sans cette histoire de Ruth, sans Ruth elle-même, il n'y a pas le roi David, donc il n'y a pas la royauté d'Israël telle que Dieu l'avait prévue, et puis il n'y a pas pour nous Jésus, qui est lui-même descendant du roi David. Donc je vais rappeler un petit peu l'histoire. Donc c'était l'histoire d'une famille d'Israël qui habitait à Bethléem Ephrata en Juda. Donc Bethléem, la maison du pain, à Juda, le pays de la louange. Et il s'appelait Élimélec, mon Dieu et roi, Noémie, ma grâce, Mahlon et Kilion. Comme il y avait une famine à Bethléem, ils ont décidé de partir à Moab, le pire choix qu'ils pouvaient faire, puisque Moab c'était vraiment l'endroit que Dieu avait rejeté. Et puis les ennuis ont commencé, alors qu'ils étaient partis chercher quelque chose qu'ils pensaient ne pas avoir. Élimélec est mort. Noémie a laissé ses deux fils, Mahlon et Kilion, se marier avec deux femmes de Moab, Ruth et Orpa. Suite à quoi, Mahlon et Kilion sont morts tous les deux, et Ruth s'est retrouvée toute seule avec ses deux belles filles. Elle qui pensait n'avoir rien du tout à Bethléem parce qu'elle avait faim, elle a plus de famille. Elle apprend que la famille est terminée à Bethléem, elle décide de rentrer et elle décourage ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, de venir avec elle. Orpa laisse tomber et reste à Moab. Et Ruth fait une preuve extraordinaire de foi et décide de choisir non seulement de suivre Noémie, mais d'adopter sa nation et son Dieu comme son propre Dieu. Noémie et Ruth arrivent à Bethléem, au début de la moisson, à peu près au moment de la Pâque juive. Et Ruth décide d'aller glaner, selon ce qu'on a vu, la loi de l'Ancien Testament qui autorisait les veuves, les orphelins et les étrangers à aller glaner, c'est-à-dire à récupérer ce qu'il y avait sur les bords du champ et ce qui était tombé dans le champ au moment de la moisson, que les moissonneurs ne devaient pas ramasser. Et il se trouve qu'elle arrive dans le champ de Boaz, et on nous a présenté au début du chapitre 2 Boaz comme un proche parent riche et puissant d'Élimélec. Et on voit que Boaz la remarque tout de suite. Il s'inquiète de savoir qui c'est. Il apprend que c'est la belle-fille de Noémie qui est revenue, qui a suivi sa belle-mère. Et Boaz la bénit de 7 façons différentes. On a vu, il la bénit en lui donnant un don de direction. Il lui dit « ne va pas dans un autre champ ». On a vu de la même manière que Jésus nous bénit aussi en nous donnant l'Esprit Saint pour nous donner un don de direction, pour nous guider. Il l'a béni avec un don de protection. Il lui dit que ses serviteurs ne vont pas la toucher. Donc il s'assure qu'elle va pas être malmenée. Et de la même manière, on est protégé, nous, par Dieu et par l'entourage de l'Église, de la communauté. Il lui donne le don de la providence, puisque non seulement elle peut aller glaner, récupérer ce qui reste par terre, mais il dit à ses serviteurs de laisser tomber exprès des gerbes par terre pour qu'elle puisse les ramasser. Et c'est pour ça que le soir, elle va revenir avec un sac plein de grains alors qu'elle était partie que pour récupérer les miettes. Et nous aussi, Dieu nous donne ce don de providence en nous donnant plus que ce que nous, on pourrait trouver par nous-mêmes. Même quand on lit dans la Bible, il peut nous montrer les passages qui vont s'appliquer à nous parmi ces milliers de versets qui sont là. Il lui donne le don d'encouragement. Il l'encourage à continuer. Et il reconnaît aussi, quand il lui parle, qu'elle a choisi le Dieu d'Israël comme son Dieu. Et il l'encourage à continuer dans cette direction, dans la foi. Nous aussi, on est encouragés. C'est un des ministères de l'Esprit-Saint que de nous encourager. Il lui donne le don de communion. Non seulement il la laisse glaner et en plus récupérer plus que ce qu'elle était venue chercher, mais en plus de ça, il l'invite à partager le repas, une chose très très importante, à partager le repas avec les serviteurs, avec les moissonneurs et avec lui-même. Il l'invite, c'est très très symbolique, il l'invite à venir tremper son morceau de pain dans le vinaigre, de la même manière que Jésus a partagé la scène avec ses disciples, avec le pain et le vin, et de la même manière encore avant, comme un symbole aussi, Abraham avait rencontré Élimélec qui avait partagé le pain et le vin avec lui. Et nous aussi, on a ce don de communion avec Christ. Il lui donne le don d'accueil, puisqu'il l'accueille parmi ses serviteurs, alors qu'elle aurait dû être rejetée, elle est moabite. Nous aussi, on a eu cet accueil de la part de Christ. Et enfin, il lui donne le septième don de satiété. C'est-à-dire que non seulement elle va manger avec eux, mais en plus, elle a plus faim, elle est bien. Et je pense que quand elle était à Moab, elle n'avait pas cette satiété. Non seulement cette satiété peut-être matérielle, mais spirituelle. Et la satiété d'être accueillie et de se sentir accueillie dans la communion avec ces personnes. Nous aussi, on a ce don de satiété, entre autres dans la parole. Dieu peut vraiment nous remplir et nous satisfaire avec sa parole. On a vu que Ruth était rentrée à la maison avec un sac plein et que Noémie était vraiment, elle qui était rentrée, qui disait « Le Seigneur m'a affligée, le Seigneur m'a fait du mal », elle dit, elle est bénie, et elle se rend compte que Dieu l'a pas abandonnée. Et mieux encore, elle a ramené Ruth avec elle un peu comme un fardeau, elle a ramené une Moabite avec elle, et elle se rend compte que c'est par Ruth, par la foi de Ruth, qu'elle commence à être bénie. Et surtout, elle sait qui est Boaz. Elle sait que Boaz est un proche parent, et donc que Boaz est un potentiel rédempteur. Un goël, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de racheter ses terres, d'une part, puisqu'elles sont, on l'a vu, hein, elles sont pauvres, elles sont revenues à Bethléem, Noémie a encore des terres, mais elle peut rien en faire, elle a pas d'argent, ils ont rien semé, il y a rien à récolter. Boaz a le pouvoir de racheter ses terres pour qu'il reste dans la famille, c'était les lois de l'Ancien Testament, mais aussi peut-être de se marier avec Ruth, comme l'ordonnait la loi du Lévira, pour donner une descendance. Et Noémie, qui a plus de mari, qui a plus de fils, espère avoir une descendance par Ruth, puisque la loi du Lévira disait que si un homme mourait, un de ses frères ou un de ses proches parents devait se marier avec sa femme pour donner une descendance à son frère. Je voulais revenir un petit peu, j'ai eu un commentaire la semaine dernière, parce que à un moment donné dans Ruth 2:9, Boaz disait à Ruth « J'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Et puis on avait vu que Ruth avait retenu, donc Boaz lui avait dit « Reste avec mes servantes et j'ai ordonné à tes serviteurs de ne pas te toucher. » Ruth avait retenu « Reste avec mes serviteurs ». Et puis Noémie l'avait corrigé, avait dit « C'est mieux que tu restes avec ses servantes quand même ». J'avais parlé de ça, de l'importance dans l'Église de faire attention si vous devez vous confesser, si vous devez parler, partager des choses, ou simplement si vous avez besoin d'une bonne étreinte, c'est mieux de le faire entre hommes ou entre femmes pour éviter des ambiguïtés qui peuvent conduire à beaucoup de choses. Et j'avais parlé du fait que Paul encourageait à la même chose. J'ai eu une question là-dessus, puisque j'ai pas donné de citation, donc très rapidement, dans 1 Corinthiens 7, qui est un chapitre sur le mariage, Paul nous dit « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Il dit ça en général et ensuite il parle du fait que de toutes les conseils qu'il donne concernant le mariage. Mais généralement, c'est ma compréhension que Paul vraiment soutient cette idée-là. On va commencer le chapitre 3. Donc au chapitre 3, on a vu à la fin du chapitre 2 que elle demeure, donc Ruth demeure avec sa belle-mère Noémie jusqu'à la moisson des blés, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la Pentecôte. Donc ça fait une cinquantaine de jours, à peu près un mois et demi. Et pendant tout ce temps-là, Ruth et Noémie sont bénies par la providence de Boaz, puisque Boaz continue à fournir pour elles, sans rien demander en échange. Et lui aussi, il agit par la foi, en fait, puisque, on va le voir, il n'est pas le seul rédempteur. Noémie avait dit, il est un de nos rédempteurs. Et donc, il donne généreusement, mais il n'a aucune garantie qu'il va recevoir en échange non plus. On va lire les 10 premiers chapitres. Les 10 premiers versets, sinon on en a pour un certain temps. Page 276 dans la Bible à la Colombe. Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent ? Or lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Et elle répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Je vais m'arrêter là, en fait. On voit que Noémie a un plan. Ça fait peut-être un mois et demi qu'elle y réfléchit. Comment on va faire ça? Donc qu'est-ce qu'elle dit à Ruth? Elle lui dit, là c'est la fin de la moisson des orges, puisqu'on en est à la moisson des blés, et la fin des moissons c'est l'occasion de faire la fête. Elle lui dit, il doit aller vanner les orges qui sont dans l'air, c'est-à-dire les orges ont déjà été battues, puisque on récolte d'abord, ensuite on bat les céréales pour extraire les céréales, et ensuite on fait le vannage. Et donc une fois que tout ce travail-là est fini, on fait la fête, on boit, pas mal, surtout les hommes. Et donc elle lui dit, profites-en, vas-y ce soir, attends qu'ils aient bien bu, et puis normalement ils vont rester là toute la nuit. C'est pas parce qu'ils arrivent pas à rentrer chez eux, c'est pour garder le champ, parce qu'il y a toutes les choses qui restent sur place. Donc normalement, il va se coucher là avec ses serviteurs, repère bien où est-ce qu'il va se coucher, et puis t'iras te mettre là où il est, découvrir ses pieds et te coucher à ses pieds. Ça peut paraître bizarre pour nous, hein, comme idée. Attends qu'il soit bien pompette là, et puis va te coucher à ses pieds. En fait, c'est pas si bizarre que ça. Ça a pas vraiment de. C'est pas vraiment choquant dans la culture de l'époque. Mais surtout, ce qu'elle propose, c'est, elle sait que Boaz ne peut pas. On va voir pourquoi. Ne peut pas aller au devant de Ruth, puisqu'il n'est pas le seul rédempteur. Donc, c'est une manière pour Ruth d'aller au devant de Boaz et de se mettre à ses pieds. Encore une fois, on a vu plusieurs fois que Ruth était dans un esprit non seulement de foi, mais de soumission. Et encore une fois, c'est un esprit de soumission. Que d'aller se mettre à ses pieds et de dire, voilà, je suis là. Et tu vas décider ce que tu vas faire avec moi. Et puis, elle va lui découvrir les pieds pour être sûr qu'il se réveille, parce qu'il a quand même probablement bien bu. Je sais que si j'ai les pieds découverts la nuit, ça manque pas à 4-5 heures du matin, je me réveille. Et puis on voit encore que Ruth fait encore preuve de foi et de soumission. Elle dit « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » C'est vraiment les deux qualités, les deux grandes qualités de Ruth, la foi et la soumission. Au verset 6, « Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il y en a d'autres qui ont eu des surprises comme ça. Il y a Adam qui a eu une surprise, Dieu l'a mis à dormir, et puis quand il s'est réveillé, il y avait Ève. Puis des fois, c'était des mauvaises surprises aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, quand c'était Jacob, quand il s'est réveillé, et puis que c'était pas... Non. C'était pas Rachel, c'était Léa. Bon, là, c'est une bonne surprise, a priori. Il voit une femme qui est couchée à ses pieds. Il dit... « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile, ou étends ton manteau dans certaines traductions, étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Tu es rédempteur. » Ruth s'était présentée avant, quand elle avait rencontré Boaz au chapitre 2, elle avait dit, « Je suis Ruth, la Moabite. » Maintenant, elle se présente comme sa servante, alors qu'elle n'a jamais été achetée. Elle n'a pas encore été achetée par Boaz, elle se présente déjà comme sa servante. C'est encore cet état d'esprit d'être dans la soumission et de jamais se mettre plus haut que ce qu'elle est, qui fait qu'elle est à chaque fois élevée parce qu'elle s'est mise plus bas. Il dit « étends ton vêtement, étends ton aile », c'est le même mot en hébreu qui était utilisé au chapitre 2, au verset 12, quand Boaz avait dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Donc le même mot avait été utilisé pour parler de l'aile de Dieu qui protégeait Ruth. Et puis c'est le même mot aussi qu'on trouve dans l'Exode 25, quand Dieu décrit le tabernacle avec les chérubins qui étendent leurs ailes au-dessus du siège. Donc c'est vraiment une idée de protection. Étant ton aile, c'est une idée de protection divine. Il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » La première, pour moi, c'est la marque de loyauté qu'il avait vue envers sa belle-mère, le fait qu'elle avait suivi sa belle-mère par la foi et qu'elle avait continué à l'aider, puisque c'est elle qui a été glanée, pour subvenir aux besoins de sa belle-mère et d'elle-même. Je reviens un petit peu sur le manteau, sur l'aile. C'est aussi, ce mot-là, il est aussi utilisé pour le bord du manteau, pour la frange des fois. C'est utilisé dans 1 Samuel. C'est un signe de puissance. Moi, ça me fait penser aussi à cet épisode dans Marc 5 de Jésus et la femme malade, quand Jésus est sur le chemin pour aller voir la fille de Jaïros, et qu'une femme essaye de toucher, ou vient toucher, le bord du manteau. Le bord du manteau, ça représente la puissance. C'est à tel point que traditionnellement, en Israël, ils se faisaient mettre des belles franges bleues, et plus il y en avait, plus on était puissant. C'était vraiment un signe extérieur de puissance. Et cette femme voulait toucher le bord du manteau de Jésus pour avoir cette puissance qui pouvait la guérir. Ce bord du manteau, c'est l'aile protectrice, mais c'est aussi étant ta puissance sur moi pour me protéger. Et puis Ruth, bien sûr, quand elle dit « tu as devoir de rachat », elle fait référence à la loi du Lévirat. On avait vu qu'il y avait deux lois qui s'appliquaient au Rédempteur. Une loi qui s'appliquait pour le rachat des biens. Donc Dieu avait mis cette loi en place, qui était vraiment une loi très juste, qui s'assurait que les biens restaient dans les familles, pour éviter le capitalisme qu'on a aujourd'hui. Si quelqu'un devenait pauvre, comme c'était le cas de Noémie, au lieu simplement de vendre sa terre à n'importe qui, c'était le devoir d'un proche parent, de quelqu'un de la famille, de racheter cette terre pour s'assurer que la terre reste dans la famille et qu'elle revienne ensuite aux héritiers de cette personne quand ils auraient récupéré de l'argent, qu'ils puissent la racheter ensuite, pour être sûr que les familles aient des biens équilibrés et qu'il n'y ait pas des gens qui possèdent tout et des gens qui possèdent rien. Et en plus de ça, il y avait la loi du jubilé tous les 50 ans qui redistribuait tous les biens et qui libérait tous les gens en esclavage pour encore re-répartir et être sûr que les biens n'allaient pas devenir un moyen de puissance les uns sur les autres. Donc il y avait cette loi-là, et la deuxième loi qui est la loi du Lévirat, qui disait justement que quand un homme mourait, sans laisser de descendance, son frère ou son plus proche parent devait se marier avec sa femme pour donner une descendance à son frère. C'est à cette loi-là que Ruth fait référence quand elle dit « tu as devoir de rachat ». Il dit, en gros, en tant que rédempteur, tu dois te marier avec moi pour donner une descendance à mon mari qui est mort. On continue au verset 11. Dans une petite note. Sur la fidélité, au verset 10, tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. C'est vrai que Ruth était a priori encore jeune, probablement 30-35 ans. Elle aurait pu trouver un homme jeune. A priori, si Boaz a pris soin de dire à ses serviteurs de ne pas la toucher, c'est que ça aurait pu arriver. C'est qu'elle était probablement pas moche, hein, surtout qu'il l'a remarqué tout de suite. Mais elle a fait confiance. Elle a eu la foi, sachant dans la loi d'Israël que Boaz était un rédempteur potentiel. Elle a eu la foi dans le fait que c'était la meilleure solution, la solution que Dieu avait choisie pour son peuple dans ces cas-là. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Ça fait à peine un mois et demi qu'elle est là, mais tout le monde sait déjà que c'est quelqu'un en qui on peut compter, que c'est quelqu'un qui marche par la foi et qui a de la fidélité. Elle a eu de la fidélité envers sa belle-mère et elle a eu la foi de venir en Israël alors qu'elle était moabite. Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien, qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Et voilà. C'est probablement pour ça que Boaz n'est pas allé voir Ruth pour exercer son devoir de rédempteur, c'est parce que c'est pas lui qui est le rédempteur principal. Puisque dans la loi des rédempteurs, c'est le plus proche parent qui doit exercer le droit de rédemption, sauf si ce plus proche parent se désiste. Donc Boaz n'est pas en position d'exercer ce droit de rédemption, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait l'exercer avant lui. On a vu que Boaz est vraiment un type de Jésus-Christ, et que Ruth est vraiment un type de nous, de l'Église. Alors, si Boaz est le rédempteur, mais qui peut avoir un droit de rédemption plus important que Boaz? Qui, pour nous, peut avoir un droit de rédemption plus ancien que Christ? On va voir. Mais puisque Ruth, maintenant, a accepté Boaz comme rédempteur, elle n'a même pas été voir cet autre rédempteur, elle ne sait même peut-être pas qui c'est d'ailleurs. Maintenant, il a décidé qu'il allait faire tout pour elle. Le fait que Boaz peut être rédempteur, c'est parce qu'il est un proche parent. Et Jésus peut être notre rédempteur aussi parce qu'il est un proche parent. Jésus s'est incarné, Jésus qui est Dieu, qui est là de toute éternité, s'est incarné pour nous, pour devenir notre proche parent, pour vivre une vie comme la nôtre, avec les mêmes tentations, dans la même chair, pour être proche de nous et pouvoir être notre proche parent, pour pouvoir être notre rédempteur. Et donc Boaz lui dit, reste là et ne t'inquiète pas. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où on peut se reconnaître l'un l'autre. Et Boaz se dit, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Il dit alors, « Tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. » C'est ce qu'elle fit, pardon, et il mesura 6 mesures d'orge dont il la chargea. Puis, il rentra dans la ville. Donc encore une fois, il la bénit, encore plus peut-être que la première fois, 6 mesures d'orge, il a rempli son manteau. Et c'est vraiment les prémices des bénédictions du mariage qu'il lui donne. Comme nous, aujourd'hui, les noces de l'agneau qui sont annoncées dans l'Apocalypse n'ont pas encore été célébrées, on est dans les prémices, les bénédictions qu'on a aujourd'hui, c'est les prémices des bénédictions qui vont suivre. Il mesure 6 mesures d'orge. C'est peut-être un signe qu'il envoie à Noémie quand elle va voir Ruth arriver. 6 comme 6 jours. 6 mesures d'orge. Il y a 7 jours par semaine et Dieu a travaillé 6 jours. Il ne s'est reposé qu'au 7e. C'est peut-être un moyen de dire à Noémie, t'inquiète pas, je vais pas encore me reposer, il manque encore 1 mesure. Et de fait, on va le voir, verset 16, Ruth revint auprès de sa belle-mère et Noémie dit, « Est-ce toi ma fille ?» Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, « Il m'a donné ses 6 mesures d'orge en me disant, « Ne retourne pas vide vers ta belle-mère. » Et elle, a priori, a compris. Et elle dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire. » Aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, repose-toi, tel que c'est parti, tu peux être sûr que ce soir, il se sera assuré que tout est bon. Pour nous aussi, quand Dieu nous fait une promesse, on n'a pas besoin de se bouger dans tous les sens pour savoir comment ça va se faire, comment on va arranger ça. Non, non. On peut se reposer, elle lui dit « reste ici ». Va même pas glaner aujourd'hui. Repose-toi, ne t'inquiète pas. S'il a dit qu'il allait finir cette affaire aujourd'hui, il va finir cette affaire aujourd'hui. Tu peux être sûr qu'il va le faire. Les bonnes choses en perspective. Donc au chapitre 3, on a vraiment vu que Ruth, encore par la foi, est allée voir Boaz. Et Boaz l'a béni pour cette foi. Et Boaz va maintenant faire le travail de rédempteur. Ou plutôt, il va s'assurer déjà qu'il a le droit de le faire, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui a plus de droit que lui de le faire. Et donc, à partir de maintenant, c'est Boaz qui va se mettre au travail pour Ruth. De la même manière pour nous, Jésus est parti se mettre au travail pour nous. Il a annoncé en Jean 14, versets 2 à 4... En Jean 14, versets 2 à 4, il a dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Ça rapproche aussi d'une tradition en Israël, vous vous rappelez peut-être la parabole des 7 vierges. Quand un homme allait se marier, il allait d'abord construire sa maison, et puis une fois que sa maison était construite, il revenait de nuit souvent, donc on savait pas lequel c'était, et il venait chercher la femme qui l'attendait. Et c'est pour ça que Jésus disait les vierges devaient avoir des lampes qui brûlent longtemps pour être prêtes quand leur futur mari arriverait, puisqu'on savait pas quand est-ce qu'il arriverait. De la même manière, Jésus est parti nous préparer une place, il est parti au travail pour préparer cette place pour nous dans la vie éternelle. Et Boaz, maintenant, s'est mis au travail pour aller préparer cette place pour Ruth. Il est parti faire le travail de rédempteur. On va lire au chapitre 4. Boaz était monté à la porte et s'y était assis. Or voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Et Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. On connaît pas son nom. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Jusqu'à maintenant, toute l'histoire a été un peu en privé, entre Noémie, Ruth et Boaz. C'est eux qui savent un petit peu ce qui se passe. Il y en a peut-être d'autres qui s'en doutent un peu. Les serviteurs à qui on a dit de laisser des gerbes derrière, ils se doutent qu'il se passe quelque chose, mais rien n'a été fait vraiment en public. À partir de maintenant, c'est des affaires publiques. Et Boaz va chercher 10 anciens de la ville comme témoins, et il vient faire venir le rédempteur qui a plus de droits que lui. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat, « Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. » Elle peut rien en faire, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de quoi semer, elle n'a pas de serviteur pour récolter. Donc elle met en vente sa pièce de terre. Et moi j'ai pensé t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Normalement c'est pas si tu veux racheter, tu dois racheter, mais bon. Si tu ne le rachètes pas, « Déclare-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir, et je ne l'ai qu'après toi. » Il répondit, « C'est moi qui le rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Alors, femme du défunt, c'est vrai qu'il a dit que le champ appartenait à Élimélec. Et Ruth n'est pas la femme d'Élimélec. Ruth était la femme de Malon, qui était le fils d'Élimélec. Et a priori, même pas son fils aîné, puisqu'on voit plus tard que, un petit peu plus tard, il parle de Kilion et Malon en mettant Malon en deuxième, qu'il est possible que c'était même pas le fils aîné. Seulement, comme Kilion est mort, que sa femme est restée à Moab et qu'Élimélec est mort, il ne reste que Ruth pour être héritière des biens d'Élimélec. Donc, le défunt en question, c'est Malon, le fils d'Élimélec, le mari de Ruth. Donc, on voit que cet autre rédempteur est prêt à acquérir les biens, les terres. Il a a priori suffisamment d'argent, il veut bien acheter les terres. Par contre, on va voir ce qu'il en est pour Ruth. Celui qui avait le devoir de rachat répondit, « Je ne peux pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. » De peur de détruire mon héritage. A priori, il avait déjà une famille. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il a peur de détruire son héritage. Peut-être qu'il se dit, si j'ai déjà une femme, que j'en prends une deuxième, elles vont se taper dessus toute la journée. Peut-être simplement qu'il n'a pas suffisamment d'argent, parce que si il a déjà une famille qui se marie avec Ruth, il a le devoir de lui donner un fils qui ne sera pas son fils. Donc il a le devoir ensuite de rendre la terre qu'il aura achetée à Noémie au fils de Ruth pour assurer la descendance d'Élimélec et de Malon. Donc ce qu'il aura acheté ne sera pas à lui, il devra le donner au fils de Ruth. Donc ça va détruire un petit peu son capital. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il a simplement pas confiance dans le fait qu'il peut s'occuper de Ruth et de la descendance d'Élimélec. Dans tous les cas, il refuse, et donc il refuse en bloc les deux, il refuse de racheter les terres et de racheter le droit de mariage de Ruth, puisque les deux allaient ensemble. Alors qui peut être ce premier rédempteur ? Qui peut racheter les terres, mais qui peut pas racheter Ruth. On peut suggérer que c'est la loi de l'Ancien Testament. Et qui est représentée en même temps par ce premier rédempteur, qui n'a pas de nom, et par les 10 anciens autour, qui sont témoins. La loi, elle peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Elle peut assurer qu'on est bien propre sur nous, qu'on est bien pensant. Elle peut donner une image extérieure, mais elle ne peut pas nous sauver personnellement. Elle n'a pas les moyens de le faire. On va avoir plus de parallèles plus loin, mais si ce premier rédempteur représente la loi, qui a un droit plus ancien de rédemption, malheureusement, la loi n'a pas les moyens de nous sauver personnellement. Parce que ça passe par nos œuvres, et que par nos œuvres, on ne peut pas acheter notre rédemption. Ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Corinthiens 15, 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Plus on essaye d'appliquer la loi dans nos vies, et plus on se rend compte que ça ne nous mène nulle part. Paul, en fait, explique que le péché est révélé par la loi, que sans la loi, on voit pas le péché. Et la loi, en fait, nous a été donnée pour nous montrer qu'on n'avait pas les moyens de rédemption par nous-mêmes. Et malheureusement, la loi elle-même n'a pas les moyens de nous sauver. Donc on a besoin d'un deuxième rédempteur. Pour Ruth, c'est Boaz. Pour nous, c'est Jésus. Et c'est un rédempteur vers qui on choisit d'aller par la foi, même si le rédempteur le plus logique pour beaucoup, c'est ce premier rédempteur, c'est la loi. Et on le voit encore beaucoup, hein, dans beaucoup de religions. Ils cherchent la rédemption par la loi, par la justification personnelle. C'est par la foi, nous, que nous devons croire, en ayant pris conscience que ce premier rédempteur n'a pas la puissance de nous sauver, que nous devons croire que c'est Jésus qui a la puissance de nous sauver, là où la loi ne peut pas le faire. Au verset 7, « Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou à un échange, on ôtait sa sandale et on la donnait à l'autre, et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait devoir de rachat dit donc à Boaz, « Fais l'acquisition pour ton compte. » Et il ôta sa sandale. En fait, ça fait référence à une loi du Deutéronome, qui est pas exactement ça, qui est un petit peu plus violente. Deutéronome 25, versets 9 et 10, c'est la fin de la loi concernant le Lévirat. Donc cette loi disait « Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère défunt. » Donc c'est une fois que le deuxième frère se sera marié à celui qui est mort. Le deuxième frère se sera marié à la femme de celui qui est mort. Donc ça fait bizarre. « Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère défunt afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, puisque c'est le cas ici, sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Elle fera une déclaration en ces termes « Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. » Et le nom dont on l'appellera en Israël sera la maison du déchaussé. Alors là, c'est présenté un petit peu autrement, mais en gros, c'est ça. C'est l'application de la loi du Lévirat qui dit quand un homme refusait d'appliquer la loi du Lévirat, alors qu'il était le Rédempteur, on lui enlèvera sa sandale, on lui crachera au visage, et on dira, lui, maintenant, on va l'appeler le déchaussé. La chaussure, souvent dans l'Ancien Testament, c'est une représentation de la possession. On voit par exemple dans Josué, dans le livre de Josué, quand le peuple d'Israël arrive en terre promise, Dieu dit au peuple d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça a été dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, vraiment, les pieds, ce qu'on foule du pied, ça représente la possession. Donc c'est une idée, enlever la sandale, c'est une idée de dire on t'enlève ta possession. Il y a un parallèle ici avec Jésus. Jésus, quand il a été crucifié, était pieds nus et on lui a craché au visage. Un petit peu comme si les Juifs qui ont crucifié Jésus avaient inconsciemment accompli cette loi C'est pas que Jésus a refusé d'être leur rédempteur, c'est eux qui l'ont refusé comme rédempteur et qui lui ont retiré ses chaussures et craché au visage. Ce rejet de Christ comme rédempteur, c'est une chose très grave que Christ lui-même a décrit, c'est le blasphème de l'Esprit-Saint. Le blasphème de l'Esprit-Saint, en fait, c'est refuser d'accepter le travail de l'Esprit-Saint. Et donc, c'est refuser d'accepter le travail que Christ a accompli pour nous par son sacrifice. C'est ce que Jésus nous dit, c'est le seul péché qui est impardonnable. Est-ce que ça veut dire que si vous ou moi on blasphème contre l'Esprit-Saint, c'est impardonnable, que Dieu pourra jamais nous pardonner? C'est une question théologique qui est un petit peu compliquée, mais en fait c'est assez simple. L'Esprit-Saint est le seul à pouvoir nous amener à Dieu, à pouvoir nous amener à la repentance. Si vous avez été amené à Jésus-Christ, c'est pas par vous-même, c'est parce que l'Esprit-Saint vous a mis à cœur d'aller vers Christ et de vous repentir. Si vous êtes dans un esprit de repentance, si aujourd'hui vous vous dites oh, « j'ai blasphémé contre l'Esprit-Saint », c'est que vous avez déjà été pardonné. Parce que vous ne pourriez pas être dans un esprit de repentance si l'Esprit n'était pas avec vous, si l'Esprit vous avait quitté. Par contre, si aujourd'hui vous n'avez pas accepté Christ comme sauveur, sachez que c'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Mais tout simplement parce que c'est le seul moyen de salut. Si Christ est le seul moyen de salut, refuser Christ, c'est le seul moyen de ne pas être sauvé. On remarque aussi avec cet autre rédempteur que son nom n'est jamais cité. Ni là, ni plus tard. C'est assez drôle en fait, parce que la raison pour laquelle il a refusé de jouer son rôle de rédempteur, c'est parce qu'il voulait pas altérer son héritage, c'est-à-dire son nom en fait. Il voulait être sûr de garder son nom dans la postérité. En réalité, on s'en rappelle plus de son nom. Par contre, le nom de Boaz, qui lui a choisi de jouer le rôle de rédempteur, on s'en rappelle encore. Alors pour être rédempteur, on voit, il y a plusieurs points pour pouvoir être rédempteur. Il faut en avoir le droit. En l'occurrence, il y en a deux qui ont le droit. Il y a ce premier rédempteur, dont on a oublié le nom, donc qui est le plus proche parent. Et puis il y a Boaz, qui est un proche parent, mais un peu plus loin. Je l'ai dit, Jésus a acquis le droit d'être notre proche parent par son incarnation, en se faisant notre proche parent dans la chair. Et puis, il faut pas seulement en avoir le droit, il faut en avoir les moyens. Parce que pour racheter les terres de Noémie, il faut avoir de l'argent. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas racheter les biens de son frère. Donc, il faut avoir les moyens financiers. Ce que Boaz a. Et a priori, l'autre rédempteur aussi. Et Jésus, lui, a les moyens de nous racheter du péché par son propre sang. Il a payé par son propre sang pour nous racheter. Et puis enfin, il faut en avoir la volonté. Et là, typiquement, c'est là que le premier rédempteur n'a pas suivi. Il n'avait pas la volonté de jouer le rôle de rédempteur pour Ruth, alors que Boaz l'avait. Et Jésus a la volonté, puisqu'il a été jusqu'à payer par son propre sang pour en avoir les moyens, il a la volonté de nous réconcilier avec le Père, de nous racheter. Ça fait partie du plan éternel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de nous racheter par le sang du Fils. Donc le droit, les moyens et la volonté, Jésus a les trois pour nous racheter. Et donc Ruth, maintenant, est en paix, elle est protégée par Boaz, elle est rachetée, on va le voir, c'est scellé à partir du verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Malon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets que Tamar enfanta à Juda. » Les 10 personnes qui sont là, qui sont avec ce rédempteur pas nommé, qui représentent à eux tous la loi, sont témoins du fait que Boaz a racheté Ruth. Et pour nous aussi, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes et dans l'Épître aux Romains, dans le livre des Actes au chapitre 10, verset 43, il est dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ils sont témoins du travail de Christ. Les prophètes sont témoins du travail de Christ. Et Romains 3, 21 nous dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Ou dans d'autres traductions, ça dit que la loi et les prophètes sont témoins de ce que nous sommes sauvés en Christ, par la foi. Ça me marque qu'ils disent que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Ils parlent de Ruth, là. C'est une Moabite. C'est quelqu'un qui n'était pas la bienvenue en Israël. Mais par la foi, elle est venue. Par sa foi et par sa soumission, elle a été reconnue comme une femme de valeur. Elle a été rachetée, elle qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Comme nous, on ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle a été rachetée par Boaz, par son rédempteur. Et maintenant, même le peuple d'Israël lui souhaite d'être aussi fructueuse que Rachel et Léa, qui sont les mères des 12 tribus d'Israël. Et c'est même une déclaration prophétique, puisque Ruth va devenir la grand-mère de David, c'est-à-dire qu'elle va faire partie de la généalogie des rois d'Israël et même de la généalogie du sauveur d'Israël et du sauveur du monde. Et en fait, je voulais faire une petite note sur une autre femme qu'on trouve dans la généalogie de Jésus, qui est dans Matthieu 1,5, page 1 du Nouveau Testament. Il y a peu de femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Il y a Tamar, dont on parle ici. Et puis il y a Rahab et Ruth. Et Rahab, en fait, pardon, on n'en parle pas dans le livre de Ruth, mais on voit dans Matthieu 1,5, Salma engendra Boaz de Rahab et Boaz engendra Obed de Ruth. En fait, Rahab, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une prostituée qui était à Jéricho et qui avait fait preuve de foi aussi en accueillant des soldats d'Israël chez elle. Et elle a participé justement à la prise de Jéricho par les Israélites. Et Rahab, en fait, est la mère de Boaz. Peut-être que ça a joué aussi dans le fait que Boaz a été ouvert au fait de jouer le rôle de rédempteur envers une Moabite, puisque sa mère elle-même n'était pas israélite. La mère de Boaz était cananéenne. Donc ça y est, Boaz a joué son rôle de rédempteur, il a racheté devant tout le monde les biens d'Élimélec et Ruth pour assurer la descendance de Malon. On lit à partir du verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un enfant. Ça y est, ils sont mariés. Et en plus, Ruth a un enfant. Ça me marque parce que elle avait passé 10 ans à Moab, mariée avec Malon, et ni Malon ni Kilion n'avaient donné d'enfant à leur femme à Moab. Et là, maintenant qu'elle est en Israël, elle a un enfant. Ça montre que Dieu la bénit une fois qu'elle est à Bethléem, qu'elle est mariée avec Boaz. Elle est bénie au point de porter un enfant alors qu'elle n'en a jamais porté quand elle était à Moab. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. » Effectivement, aujourd'hui encore, on en parle de son nom. « Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » T'as perdu 2 fils, mais t'as gagné une fille qui en vaut 7. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. C'est-à-dire qu'elle a été sa nourrice. On ne sait pas comment. C'est miraculeux. Elle qui était, elle était partie de Bethléem parce qu'elle avait plus rien, parce qu'elle avait faim. Elle avait tout perdu à Moab, elle était revenue, elle était vide au point de dire « Ne m'appelez plus Noémie, ma grâce, appelez-moi Mara, amère, l'Éternel m'a fait du mal. » Et aujourd'hui, alors qu'elle est grand-mère, indirectement, en tout cas elle a l'âge d'être grand-mère, qu'elle a pas eu d'enfant depuis au moins 30 ans, elle est capable de donner le sein à cet enfant. Miraculeusement, elle est passée de ce vide qu'elle avait en arrivant parce qu'elle avait tout perdu, à cette plénitude, à cette bénédiction, où elle a commencé à le dire quand Ruth est revenue du champ de Boaz, elle a commencé à parler de bénédiction, elle a commencé à dire que Dieu la bénissait. Maintenant, c'est clair, elle est vraiment bénie. Elle a une fille qui vaut 7 fils, elle a une descendance pour son mari, et puis elle est même capable d'allaiter l'enfant de sa belle-fille. Et au point que, au verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Noémie ». Elles l'appelèrent du nom d'Obed. Obed, ça veut dire serviteur. C'est lui le père d'Isaïe, de Jessé, père de David, le grand-père de David. Et voici les descendants de Pérets, le fils de Tamar. Pérets engendra Hetzron, Hetzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Narkon, Narkon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz avec Rahab, Boaz engendra Obed avec Ruth, Obed engendra Isaïe, Jessé, et Jessé engendra David. Et c'est là qu'on voit encore le lien entre le livre des juges et le premier livre des rois. Le dernier mot de ce livre, c'est David. On va vers la royauté. Et pour nous, le dernier mot du travail de rédemption de Christ, c'est la royauté de Christ, la royauté éternelle de Christ. Ce livre, il est vraiment clé parce que il nous montre tous les détails, les conditions du travail de rédemption pour qu'on apprécie vraiment le travail de rédemption que Christ a fait pour nous. Et il nous amène à considérer Christ comme roi. C'est la suite de l'histoire dans le livre de 1 Samuel. J'ai parlé un petit peu pendant qu'on passait sur le livre au fur et à mesure. J'ai fait des parallèles entre Ruth et nous, l'Église, entre Boaz et Jésus, entre cet autre rédempteur et la loi. On peut aussi faire un parallèle entre Noémie et le peuple juif. Donc Noémie pourrait correspondre au peuple juif, Ruth à l'Église, à nous, Boaz à Jésus, et l'autre rédempteur à la loi. Je vous invite d'ailleurs à relire, parce que le livre est vraiment pas long, il se lit en 15 minutes, à le relire avec ça en tête pour voir un peu les parallèles. Juste quelques parallèles, c'est par le peuple juif que nous sommes greffés, selon les termes de Paul dans Romains 11, que nous sommes greffés et que nous recevons l'accès à notre Rédempteur, Jésus. Dans Romains 11, 17 à 24, qui est page 180 dans le Nouveau Testament, Paul compare le peuple juif à un olivier et il dit « Si quelques-unes des branches ont été retranchées et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de crainte. Paul fait un parallèle entre le peuple juif, qui est représenté ici par Noémie, et l'olivier, et dit, vous avez été greffé comme un olivier sauvage, mais ne vous prenez pas au sérieux, ne vous prenez pas pour mieux que ceux qui ont été retranchés, les juifs qui ont été retranchés pour leur manque de foi, parce que vous n'êtes qu'un greffon. Et ce que Dieu a greffé, il peut le couper. Ça me touche par rapport aux deux qualités qui ressortent dans le livre de Ruth pour Ruth. C'est que Ruth, qui est arrivée en Israël par l'intermédiaire de Noémie, elle y est arrivée par la foi. Paul nous dit c'est par la foi que vous avez été greffés. On a vu la dernière fois, Ruth a sa place, même si ça paraît injuste au premier abord vis-à-vis de la loi, elle a sa place dans la généalogie d'Abraham, dans la généalogie de Jésus, par la foi, puisque Paul nous dit, les vrais fils d'Abraham, c'est ceux qui le sont par la foi. Pour nous, c'est vrai aussi, c'est par la foi qu'on a été greffé à cet olivier. Mais Paul nous dit aussi, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Et là, on voit la deuxième qualité de Ruth, qui est la soumission. C'est aussi par la soumission qu'elle a été greffée dans cette famille d'Israël par la foi, parce qu'elle ne s'est pas glorifiée, elle s'est pas mise au-dessus des autres. Pourtant, a priori, elle était belle, il y avait pas mal de gens qui la remarquaient, mais elle ne s'est pas glorifiée. Elle a reconnu sa place, que elle n'était pas, c'était pas sa place en Israël de droit. Et quand Paul dit « ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte », ça me fait penser au fait que quand Obed, le fils de Ruth, est né, tout le monde en Israël, les femmes ont dit « le Seigneur a donné un enfant à Noémie ». Les fruits qu'on porte, nous en tant qu'Église, c'est les fruits de la promesse que Dieu a fait à Israël. Mais la promesse, elle a été faite à Israël. C'est les fruits qu'on porte parce qu'on a été greffé sur l'olivier d'Israël. Mais Dieu n'a pas abandonné le peuple juif. Dieu a un projet pour le peuple juif. Et c'est très important que nous nous rappelions, que cet olivier sur lequel on est greffé, c'est le peuple juif. Sans le peuple juif et sans les promesses que Dieu a fait au peuple juif, on serait pas là. C'est important pour nous de garder cet esprit de foi, c'est par la foi qu'on est greffé, et cet esprit d'humilité, de pas nous élever, parce que nous ne sommes qu'une branche qui a été greffée sur la racine. Et que les fruits que nous portons sont les fruits de la promesse qui a été faite à Israël. Et puis on a vu que Boaz et Jésus partagent beaucoup, encore c'est un autre parallèle, on peut le voir en relisant le livre tout au long du livre. Si vous êtes déjà chrétien, vous êtes devenu héritier des bénédictions qui sont liées au sacrifice de Christ et au mariage de l'agneau qui est annoncé dans l'Apocalypse. Vous êtes héritier dès aujourd'hui et les bénédictions que vous avez aujourd'hui sont les prémices de cet héritage. Et je vous invite à vous reconsacrer dans la foi et dans la soumission à Dieu pour bénéficier de ces bénédictions. Et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous avez une invitation aussi à choisir Jésus comme Ruth a choisi Boaz comme rédempteur, alors qu'il y en avait un autre. Et elle a été bénie par la foi parce qu'elle a choisi Boaz comme rédempteur. Et elle a dû, Ruth, aller s'asseoir au pied de Boaz. De la même manière pour nous, pour vous qui ne connaissez pas encore Christ, le moyen de rédemption, c'est d'aller vous mettre au pied de la croix. C'est d'aller vous mettre au pied de la croix dans la soumission, dans l'humilité, pour accepter le travail que Jésus, en fait, a déjà fait pour vous en donnant son sang. Parce que nous avons été séparés de Dieu par le péché et que le seul moyen de nous ramener à Dieu, le seul moyen de nous sauver, c'est le sang de Christ. C'est de l'accepter comme rédempteur. On a une promesse que Jacques nous donne dans Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si aujourd'hui vous avez le désir de vous approcher de Dieu, c'est que Dieu a mis ce désir dans votre cœur par l'Esprit Saint. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Acceptez Christ dans votre cœur et vous serez sauvés et vous aurez accès à ses bénédictions. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui et que vous voulez accepter Christ, je vous invite à prier cette prière. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie, Seigneur, de m'appeler ou de continuer à m'appeler, Seigneur, vers toi. Tu vois ma vie, Seigneur, tu vois que si je regarde ma vie, toutes les choses que je fais, que je dis, que je pense, il n'y a vraiment pas de quoi se glorifier, Seigneur. Tu vois que je suis un pécheur, je suis séparé de toi, Seigneur. Et que cette séparation de toi, d'après la loi qui a été donnée, mérite la mort, Seigneur. Que je ne peux pas, par mes propres moyens, justifier ma propre vie. J'ai besoin, Seigneur, d'un Rédempteur. Je te remercie, Seigneur, que de toute éternité, tu as prévu ce plan pour racheter ma vie, Seigneur. Que tu as exécuté ce plan avec perfection, Seigneur, en envoyant ton Fils Jésus pour qu'il soit incarné, pour qu'il devienne mon proche parent dans la chair, Seigneur, qu'il vive les mêmes tentations que moi, les mêmes difficultés, ou peut-être même encore plus dures, qu'il résiste, Seigneur, qu'il porte mon péché jusqu'à la croix, qu'il meure avec mon péché pour m'en libérer, Seigneur, par son sang dans un sacrifice parfait, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'en acceptant simplement ce sacrifice par la foi, je suis racheté, Seigneur, qu'au moment du jugement, Christ pourra se tenir avec moi et me racheter, Seigneur, et dire que je suis pas en banqueroute parce que je lui appartiens et que lui n'est pas en banqueroute. Seigneur, aujourd'hui, tu m'appelles et je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies par la foi et par la soumission, Seigneur. Pour que tu guides mes pas par ton esprit, envoie ton esprit sur moi, Seigneur. Et Seigneur, en acceptant le sacrifice de Christ, je veux aussi reconnaître tous mes péchés et je veux faire demi-tour, Seigneur. Je veux me tourner vers tes voies et par la puissance de ton esprit dans ma vie, être renouvelé, être fait une créature nouvelle comme tu l'as promis, Seigneur, afin de te plaire dans ma vie et afin d'être une lumière dans le monde qui témoigne de ta présence et de ta fidélité, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.